Bonsoir, bienvenue et laissez-moi vous présenter une dame qui a tout connu, tout vu et même tout entendu. Les yeux fermés, la tête baissée et au perché, elle écoute, elle peut encaisser sans un mot, pas de commentaire, elle laisse dire, parfois laisse faire. Sur son visage, pas une trace, ni d'émotion, ni même d'âge. Elle est mutique, voire hermétique, qu'on lui reproche sa raideur, elle préfère parler de rigueur. Suspendue à ses lèvres, on a les jambes qui tremblent un peu parfois. Que va-t-elle dire ou bien penser de ce qu'on vient de raconter? Elle ne dit rien, c'est pas le moment, elle tient nos destins dans sa main. Vous attendrez, petit coquin, la dame aime prendre tout son temps, tant pis pour les impatiences, c'est le privilège de la vieillesse, le signe d'une forme de sagesse. Et si on parle à mots comptés, et si on marche à pas feutrés, c'est une question de respect. On ne crie pas, on ne court pas, la dame veut pas être chahutée, ni chatouillée, ni bousculée, encore moins être interpellée. Avec les mois et les années, elle a fini par s'éloigner. À force, serait-elle coupée de ce monde qu'elle doit observer? Serait-elle frappée de surdité quand elle ne l'entend pas bouger? À trop rester là au perché, finirait-elle par ignorer comme il bat et comme il craquelle? Au fond, se ferait-il sans elle?
France Inter. Julia Foyce, pas son genre.
La justice, cette vieille dame respectable et sans âge, prend ses quartiers dans pas son genre ce soir avec en direct depuis Toulouse la procureure de la République du Gers, Charlotte Belluet. Bonsoir.
Bonsoir Julia Foyce.
Vous avez fait sensation à la fin de l'été. Hein, pour la toute première fois, un parquet prononçait le mot féminicide. Vous nous direz dans quelques minutes pourquoi. Avec nous également, maître Éric Morin, avocat pénaliste au barreau de Paris, spécialiste entre autres des violences sexistes et sexuelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous connaissez tous les deux les codes, hein, les règles, les procédures et qui, bien entendu, vous les respectez toujours. Vous sacrifierez donc au rituel de cette émission. Si je vous dis mauvais genre, vous me répondez quoi, Charlotte Belluet? Votre petite transgression du quotidien, ce serait quoi?
Alors, qu'est-ce qui ferait mauvais genre chez moi? J'ai eu beau chercher, je dirais que c'est essayer désespérément de masquer mon bel accent toulousain, sans souvent y réussir, mais je tente à chaque fois, et à la radio ce soir, je crois que je n'y arriverai pas.
Mais est-ce qu'on vous apprend à l'École nationale de magistrature à lisser tout ça, à lisser votre accent, à lisser votre apparence? Est-ce que ça fait partie des choses qu'on vous enseigne d'être de sortir du lot le moins possible?
Non, absolument pas. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai perçu quand j'étais sur les bancs de l'École nationale de la magistrature. On a chacun nos spécificités.
Ouais. Donc, il faisait après... pas mauvais genre, votre accent, à ce moment-là?
Non, ça faisait beaucoup rire l'amphithéâtre.
Mais mettez les rieurs de votre côté, c'est ce que disait Voltaire, je crois. Hein. Oui. C'était déjà ça de gagner. Éric Morin, votre petite touche de mauvais goût à vous, ce serait quoi?
Ne le dites à personne, mais je porte des casquettes le week-end.
Ah mon Dieu!
J'adore ça.
Mais quelle forme?
Toutes.
On est sur la casquette Gavroche, on est sur de la casquette baseball, on est sur quoi?
Casquette baseball, voilà, ouais. De toute forme, de toute couleur.
Qu'en pensent vos 25 000 followers?
Je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas sûr qu'il existe des photos.
Vous avez une relation assez étroite avec Twitter, vous publiez pas mal, pourquoi? Et puis aussi bien sur le professionnel que des photos de raclette magnifiques que j'ai pu voir passer.
C'est comme une radio en fait, et on peut travailler avec la radio en fond sonore. Alors quand on doit vraiment être concentré, on la coupe. Mais sinon, ça fait un fil, ça fait une sorte de conversation, moi qui ne me perturbe pas du tout dans mon travail.
Et donc vous n'êtes pas de ceux qui crient haro sur les réseaux sociaux assez régulièrement?
Non, je crois que c'est d'abord une chance, et puis après c'est un outil, et faisons-en un bon usage. Ça sera déjà une belle chose.
Et ben voilà, comme quoi l'un des 30 avocats les plus puissants de France, Dixit JQ, se met à porter des casquettes et à tweeter. Bientôt, c'est le cardigan au restaurant ou le pantacourt au parc, quand on vous dit que tout fout le camp. I'm on exit, I know you won't see me this time. I'm in an out of love, but you know I can't find it. I'm on
It's a death-defying act you won't believe. Now it's the last in line for the newborn seeker.
Après 5 ans de silence, le quintet pop d'Other Lives revient avec ce titre Lost Days et c'est une très très bonne nouvelle qui réjouit. En régie, Patrick Henry à la technique, Marianne Crimbaud à la réalisation, Camille Poux-Jalaguier, attachée de production de Passons Genre avec nous sur les ondes de France Inter ce soir, l'avocat Éric Morin et la procureure Charlotte Belluet. Et pour eux, une question qui va nous occuper jusqu'à 20h30 et quelques brouettes. La justice française est-elle sexiste? Je sais, c'est vaste. On sera donc sur l'émission Frustration. Hein, ce soir, on va planter le décor global ensemble, on va dire. Et on y reviendra, c'est juré.
Passons genre.
J'ai jamais vraiment envisagé la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Quand on voit à quel point les femmes sont méprisées, je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on en voit se faire broyer, soit dans les façons dont on va récupérer leurs plaintes, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter leur le regard sur elle. La faute, c'est elle. Alors comment elle s'est habillée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a bu? Mais arrêtons, quoi.
Des victimes méprisées, broyées par la machine judiciaire, c'était l'actrice Adèle Haenel au micro de Mediapart le 4 novembre dernier, après avoir révélé au grand public les attouchements que lui avait fait subir le réalisateur Christophe Rugia quand elle était adolescente. En l'entendant, Éric Morin, vous vous êtes dit quoi? En entendant les mots qu'elle choisissait, en entendant sa décision à l'époque de ne pas porter plainte depuis. Elle l'a fait, mais vous êtes dit quoi comme avocat?
Qu'elle a raison. C'est un parcours du combattant d'être victime. C'est un parcours du combattant à tous les maillons de la chaîne pénale. D'abord, en franchissant les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie jusqu'à un procès, c'est prendre le risque de ne pas être cru ou de ne pas avoir suffisamment convaincu. Donc c'est un vrai parcours du combattant et c'est une violence. Mais au bout de cette violence, il y a aussi un enjeu de liberté. Et c'est un des trois mots de la devise républicaine. Je ne sais pas si c'est la contrepartie, parce que ça serait pas juste à ce point-là, et qu'il y a des dysfonctionnements et qui sont liés à des manques de moyens, il y a un manque de formation et un manque d'éducation, clairement. Mais forcément, c'est une catharsis, dans le sens où on va rejouer, on va refaire quelque chose de violent qui s'est passé, et que la justice va être là pour apaiser. Parfois, elle apaise pas, et elle va créer soit de la frustration, soit une douleur supplémentaire. C'est un vrai parcours du combattant. Je note juste qu'elle a changé d'avis. Et ouais. Qu'ensuite elle est allée déposer plainte.
Elle a changé d'avis suite au communiqué de Christophe Rugia qui niait sans nier, avouait sans avouer ce qui s'était passé. Et elle le dit elle-même, ça a été une gifle supplémentaire et la gifle de trop qui a fait.
Et du coup, finalement, c'est ce principe du contradictoire qui a fait qu'elle est allée déposer plainte et allée apporter sa parole judiciaire. Et aujourd'hui, l'affaire est en cours.
Charlotte Belluet, 10% seulement des victimes de violences sexuelles aujourd'hui portent plainte. Est-ce que, comme Éric Morin, vous les comprenez? Celles qui hésitent, je veux dire. Ou celles qui ne le font pas.
Celles qui hésitent et celles qui ne le font pas, oui, je les comprends parfaitement. À partir du moment où leur première crainte, c'est de ne pas être crue, et que pour celles qui franchissent une porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, elles vont le faire au prix d'une lutte d'abord contre elles-mêmes, contre leur propre honte, contre leur propre culpabilité. Et donc il est important, quand elles franchissent cette porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, qu'elle soit effectivement correctement reçue. Et là, il y a tout un travail de fond qui a mené, que moi, je mène dans le Gers, hein, puisque je forme tous les mois les gendarmes et les policiers à comment on reçoit une victime correctement. Et c'est un vaste sujet. Mais oui, je comprends que dans la majorité des cas, c'est la honte qui prend le dessus et qui explique que parfois, d'ailleurs, c'est des années plus tard qu'on parle avec toutes les difficultés de preuves qui vont se poser.
Honte que leur renvoie bien sûr la société, quel que soit l'endroit d'où on parle. Hein. Adèle Haenel parle d'un manque de reconnaissance, d'une incompréhension, voire d'une négation de ce qu'elles sont. Corrigez le tir, est-ce que ça commence par changer de vocabulaire, Charlotte Belluet? Quand vous avez prononcé le mot féminicide en cour d'assises à la fin du mois d'août, est-ce que vous l'avez fait justement pour ça, parce qu'il fallait prendre en compte la réalité de ce que vivent les victimes de violences conjugales?
Oui, alors quand j'emploie le terme féminicide, c'est vraiment parce qu'à ce moment-là, il est important, je l'avais déjà fait avant en fait, hein, il est important de prendre position, surtout quand on est sur un poste à responsabilité, et que là, à un moment, il faut faire en sorte, si vous voulez, que cette fameuse sphère privée fasse effraction dans la vie publique et qu'on puisse dire que là où il y a de la violence, il n'y a plus de place à l'intimité, puisqu'en l'occurrence, c'était un homicide conjugal. Et c'était dire que ces victimes existent, renvoyer à la gravité des faits et cesser de reléguer la mort de ces femmes au rang de faits divers, d'anonymes ou de statistiques. Ça, c'était insupportable et c'est surtout faire le contrepoids avec tous ces discours, en grande partie sexistes, qu'on entend autour de ce fameux crime passionnel qui est encore très ancré dans la société.
Et qu'on entend encore en cour d'assises, ces discours sexistes?
Parfois, ça peut être encore plaidé. Ou en tout cas, ça peut être la position de l'accusé, de dire « je l'ai tué parce que je l'aimais trop », avec ce discours selon lequel, finalement, ces hommes-là, ils tuent parce qu'il y aura un trop plein d'amour qui viendra quelque part les excuser. Et alors là, vous avez un amour qui sublime le crime et la victime, elle est complètement occultée.
Éric Morin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Charlotte Belluet? Elle parle de prendre position. Elle dit que sur ces sujets-là, il est nécessaire de prendre position. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que, par exemple, vous, le terme de féminicide, vous pourriez l'employer?
Je suis pas certain que le code pénal soit là pour prendre position. Il est comportemental. Quand on lit le code pénal, bon, je vous invite pas à le lire du début jusqu'à la fin parce que c'est un petit peu, c'est pas très agréable. Mais il dit pas que le voleur sera condamné à 7 ans d'emprisonnement. Il dit le vol. Il dit le viol. Il dit l'abus de confiance. Donc on va sanctionner un comportement. On a supprimé il y a quelques années les mots parricide, les mots infanticide. Moi, je trouve que le mot féminicide est un beau mot, un mot qui fait sens. Mais il faut toucher au code pénal et aux mots du code pénal avec d'une main tremblante. Et quand on parle de féminicide, quand on parle de ces 149 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint, ex-mari en 2019, en réalité, on parle pas de femmes en elles-mêmes. L'auteur les considère comme leurs femmes, comme encore leurs choses. Il y a un phénomène d'emprise, il y a un phénomène de violence qui est là, et je ne sais pas si mettre le mot féminicide alors que c'est déjà la peine maximale encourue lorsqu'il s'agit du conjoint ou de l'ex-conjoint, ou lorsqu'il s'agit à raison du sexe, changerait quelque chose et amènerait surtout une clarification. En revanche, l'utiliser dans
une plaidoirie, il ne s'agit pas forcément... Effectivement, il y a des voix qui s'élèvent pour le faire entrer en tant que tel dans le code pénal, et on avait consacré d'ailleurs toute une émission en début d'année à cette question-là. Mais vous l'utilisez dans vos plaidoiries. Est-ce que c'est une façon, comme le disait Charlotte Belluet à l'instant, de prendre position, et est-ce que vous estimez que ça fait partie de votre devoir d'avocat, de prendre position?
En tout cas, moi, il ne me choquerait pas dans la bouche d'un avocat, d'un procureur, de voire même d'un juge qui, dans des affaires d'infanticide, alors que l'infanticide n'existe plus dans le code pénal, va l'utiliser parce que c'est un mot courant et qui va être compris. En revanche, est-ce qu'il faut modifier le code pénal pour mettre ce mot-là avec des éléments constitutifs et qui sont importants, parce que c'est ça qui va après faire en sorte qu'on va poursuivre ou pas poursuivre, condamner ou pas condamner telle ou telle personne, j'avoue que je suis partagé.
Charlotte Belluet, quand vous avez utilisé ce mot-là dans votre réquisitoire, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Est-ce que rien que ça, c'était déjà une victoire pour vous et pour la cause des femmes?
Oui, on en a beaucoup parlé. Donc, c'était ça l'idée, c'était de mettre en lumière une réalité sociétale selon laquelle, majoritairement, ce sont les femmes qui sont victimes. C'est ça. Oui. On déploie, si vous voulez, dans chaque département des politiques pénales qui sont des luttes contre la violence qui est faite à l'autre. Que vous soyez un homme ou une femme, mais cette politique pénale, elle entre forcément en cohérence avec une réalité sociétale selon laquelle ce sont majoritairement les femmes qui sont victimes.
Alors, il y a les mots, puis il y a les chiffres. Selon le dernier rapport de l'IGAS, dans 80% des cas, les plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Pour autant, d'après la garde des Sceaux, la justice fonctionne. Nicole Belloubet sur BFM le 26 novembre.
La justice est efficace lorsque vous peut-être efficace lorsque et le sera davantage encore lorsque vous regardez les sanctions qui sont prononcées à l'encontre des auteurs de ces violences, elles sont vraiment fortes. Lorsque vous regardez le suivi qui est fait, tout cela fonctionne. Il ne faut pas dire que la justice ne fonctionne pas, elle peut fonctionner mieux, mais il ne faut pas penser qu'elle ne fonctionne pas.
Et alors, face à Nicole Belloubet, vous avez des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Et par exemple, Anne-Cécile Méfer, présidente de la Fondation des Femmes, qui parle, elle, de défaillance à tous les étages du système politique, policier et judiciaire. Alors, qui a tort? Qui a raison? Pour la partie qui vous concerne tous les deux ce soir, Charlotte Belluet, elle fonctionne ou elle fonctionne pas, l'institution judiciaire en matière de violences sexuelles et sexistes?
Elle fonctionne comme elle peut, avec au maximum des moyens qu'elle a.
Ouais.
Voilà, c'est la réponse que je
Sauf que Marlène Schiappa répondra toujours que ça n'est pas qu'une question de moyens, qu'il n'y a pas un bouton pour déclencher de l'argent magique, et que finalement, la question n'est pas là. On rappelle que d'après les associations féministes, il faudrait 1 milliard pour lutter efficacement contre les violences sexuelles, et qu'en France, on est dans les estimations les plus hautes à 360 millions d'euros. Vous dites, vous, c'est une question de moyens et pas une question de justice, et de professionnels de la justice.
Mais plus on sera nombreux, plus on sera en capacité aussi de prendre en charge un certain nombre de dossiers. Voilà, moi, à la permanence, par exemple, tous les jours, quand je suis de permanence, j'ai 70 appels par jour. Donc, ça veut dire 70 dossiers. Voilà. Donc, il faut pouvoir gérer à un moment donné plusieurs dossiers en même temps, avec toute la difficulté de pouvoir se tromper, parce que la justice est profondément humaine aussi, mais on a un problème de moyens majeurs. La France, elle consacre 67 euros par an par habitant à sa justice, alors que la redevance télé, il me semble qu'elle coûte 135 euros. Donc vous voyez bien qu'il y a
des priorités. Oui.
Mmh.
Les chiffres sont assez effarants. 73% des plaintes pour violences sexuelles classées sans suite. 93 000 viols déclarés chaque année, 1 millier seulement de condamnations. Moins 40% de condamnations aux assises en 10 ans. Éric Morin, c'est même pas qu'on n'avance pas, c'est qu'on recule, quoi.
Alors, sur la question des moyens, les 164 barreaux de France sont actuellement en grève, pas seulement pour défendre la retraite des avocats, mais sont rejoints par les greffiers et certains syndicats de magistrats, parce que la justice manque de moyens. C'est pas seulement de l'argent, c'est aussi de l'argent que l'on met dans la formation et dans la formation de services spécialisés sur tout le territoire. Je prends juste un exemple. Il y a des brigades de mineurs, à peu près sur l'ensemble du territoire, qui vont s'attacher aux infractions commises contre les mineurs. On n'a pas, en France, de services spécialisés en matière de violence sexuelle. On a certaines formations, comme ça, de part et d'autre. On a un office central qui est à Nanterre, qui s'occupe des violences contre les personnes. Mais sur ces violences sexuelles, sur ces questions de viol, sur ces questions de viol, au-delà de l'image cinématographique qu'on a de la femme violée dans un parking qui va se débattre et qui va hurler, alors que ça n'est pas ça, un viol, tel qu'ils sont jugés aux assises quasiment quotidiennement dans toutes les cours d'assises de France, on n'a pas de service spécialisé. Alors, on peut mettre des accueils toujours un peu mieux dans certaines gendarmeries ou dans certains commissariats, mais c'est vraiment mettre un pansement sur une jambe de bois.
Oui, sauf que la question des moyens explique certainement une partie de ces chiffres-là, mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que les magistrats, que les avocats, que les procureurs sont aussi des êtres humains et qui baignent dans une culture, qu'ils ont aussi leurs biais, qu'ils ont aussi, comme tout être humain, des présupposés qui pourraient expliquer ces chiffres-là. Charlotte Belluet, je les répète, 73% des plaintes classées sans suite, 1% seulement de condamnations. Si on parle de viol, moins 40% aux assises en 10 ans. Charlotte Belluet.
Non, je crois pas travailler sur des présupposés. Après, ce qui est très difficile en matière d'infraction sexuelle, c'est que souvent, ça se joue entre la parole de la victime, ce qu'elle vous dit, et vous pouvez tout à fait la croire, et la parole du mis en cause qui lui bénéficie de ce principe majeur qui est le principe de présomption d'innocence. Et quand vous n'avez que la parole de la victime, que vous n'avez pas de constatation médico-légale, pas de témoin, comment vous allez à l'audience avec ça? Ça, c'est une vraie difficulté. Par contre, pour éviter d'ajouter de la violence institutionnelle, ce qu'il faut faire quand on classe, c'est, dans un certain nombre de cas, de recevoir la victime pour lui expliquer pourquoi on classe et pas lui envoyer un courrier type de classement sans suite. Mais c'est très délicat. Alors en plus, là, on a encore allongé la prescription des crimes
sexuels commis sur mineurs, sexuels. Oui, à 30 ans, bon, à partir de la majorité.
C'est très bien parce que ça permet aux femmes de parler ou aux hommes de parler à n'importe quel moment. Sauf que cette prescription renvoie à des problèmes de preuve. Plus le temps passe, plus il sera difficile de prouver parce que vous n'aurez pas de constatation médico-légale. Et par exemple, la semaine dernière, là, j'ai classé aussi un dossier pour extinction de l'action publique parce que la personne en cause est décédée. Donc c'est très bien d'allonger les délais de prescription. Mais ce qu'il faut faire en amont, c'est permettre à ces femmes de parler beaucoup plus tôt.
Oui, et
pour qu'elles aient confiance.
Et pour ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, formation, évidemment.
Pour former.
À tous les étages des policiers et des professionnels de la justice. Vous évoquez la question de l'imprescriptibilité ou de la prescription des crimes sexuels. C'est une si vaste question qu'on y consacrera une émission tout entière. N'empêche que ça rejoint un autre point qui est, faut-il changer les lois existantes ou bien est-ce qu'elles suffisent en l'état? Cette question-là se pose au sens large, mais elle concerne notamment celle du consentement avec la publication du livre de Vanessa Springora. Elle est revenue au corps des débats. Écoutez ce qu'en dit la députée France Insoumise Clémentine Autain le 16 janvier dernier à Elisabeth Martichaud sur LCI.
La question de l'âge à partir duquel on peut se poser la question du consentement
sexuel.
Je pense que ce débat doit maintenant entrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est 13 ans? Est-ce que c'est 15 ans?
Il y a plus d'un an, effectivement, à un moment l'a envisagé. Et face aux réserves du Conseil d'État,
je
estime qu'il y a déjà un crime ou un délit de...
Je sais bien, mais nous voulons remettre cette question en débat à l'Assemblée nationale.
Donc et je veux bien,
exactement, un âge à partir duquel on inverse d'une certaine manière la présomption d'innocence et où on se dit que un enfant de moins de 13 ans, peut-être 15 ans, mais 13 ans, disons, un enfant de moins de 13 ans n'est pas en situation d'exprimer de façon consciente, aiguisée, son consentement.
Éric Morin, est-ce qu'il faut une nouvelle loi qui concernerait sur le seuil du consentement, ou est-ce qu'il faut encore une fois, comme on le disait à l'instant, former pour qu'on comprenne enfin ce qu'est cette question même du consentement qui semble quand même échapper à bon nombre d'entre nous et d'entre vous aussi du coup.
Le juriste et l'avocat que je suis se méfient des choses automatiques.
Ouais.
On a une justice imparfaite parce qu'on a une justice humaine. Et moi, je préfère largement une justice imparfaite et humaine avec des hommes et des femmes, peut-être avec leurs biais, peut-être avec leurs présupposés, peut-être avec leur mauvaise humeur du jour, parce que ça reste des hommes et des femmes, plutôt qu'on ait une justice où on rentre un dossier comme dans une machine à distribuer les canettes, et puis on vous dit, voilà, c'est coupable, et puis c'est automatique. Et,
quitte à ce que ce soit une forme de loterie, parce que le verdict dépendra de l'humeur d'un procureur ou d'un avocat.
Nos règles de procédure font en sorte de limiter au maximum cette loterie. Évidemment qu'on aura quelque chose d'éventuellement imparfait de part et d'autre, mais je préfère ça. Vous savez, aux États-Unis, vous êtes condamné une fois pour avoir volé une pizza, c'est 5 ans. Alors peut-être que c'est pas le quantum exact. Si vous recommencez en récidive, ça sera 10 ans. Puis si vous recommencez, c'est toujours une pizza, vous serez condamné à perpétuité. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut quelque chose où on va rentrer un petit peu plus dans le détail? Peut-être que ça sera ce parcours du combattant, mais au moins ça sera quelque chose où chacun aura pu s'exprimer, y compris celui que tout accuse.
Charlotte Belluet, un dernier mot sur la question du consentement. Le Conseil de l'Europe a épinglé la France il n'y a pas très longtemps, à l'automne dernier, parce que dans sa définition du viol, elle n'intègre que la notion de contrainte, menace, violence ou surprise. Or là, la notion d'emprise vient d'intégrer une loi sur les violences conjugales. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est-à-dire qu'on sort de la question stricte et automatique de l'âge de la victime, pour entrer dans une notion plus globale de ce que c'est qu'un mécanisme d'emprise. Est-ce que pour vous, procureur de la République, c'est enfin un pas significatif pour les victimes?
Oui, de toute façon, l'emprise, elle est au cœur des violences conjugales ou de certains crimes ou délits sexuels. C'est ça qui se joue, bien entendu. Et qui va pouvoir d'ailleurs entrer une distorsion du consentement.
Pardon?
Et c'est d'ailleurs cette emprise qui parfois entraîne une distorsion du consentement.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est avez... voilà. que oui, c'est un oui. oui qui n'est ni libre ni éclairé en quelque sorte.
Exactement.
C'est ça. Éric Morin, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, quand on regarde les chiffres en matière de viol et d'agression sexuelle, la victime connaît son agresseur presque 9 fois sur 10. Ça veut dire qu'il y a déjà une relation qui s'est instaurée entre cet agresseur, ce violeur, et la victime, parfois qui a duré plusieurs années. Pas obligatoirement une relation d'autorité, parce qu'on connaît la circonstance aggravante d'autorité, c'est pas forcément un professeur, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir une autorité au sens légal du terme, mais qui va créer cette emprise. Alors, on a des experts qui y travaillent. Moi, je suis plutôt favorable à ce que, plutôt que de mettre une notion de consentement avec un âge automatique, qu'on parle de cette notion d'emprise et qu'on l'intègre dans le code pénal. Pour l'instant, c'est en discussion, mais j'y suis plutôt favorable.
Que ce soit pour les magistrats ou même pour les jurés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à comprendre et à apprendre en matière de violence sexuelle. Tout le monde est donc avocat et juge compris.
Oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, cette image cinématographique qui s'est imprimé dans la société du viol n'est pas la réalité du viol et toutes les victimes de viol le savent.
Bon, ben je vous avais prévenu, ce soir on ferait l'émission Frustration. Vous savez quoi, d'ici 21h on va quand même y revenir d'une façon ou d'une autre à ces questions de justice et de genre, vous verrez. Charlotte Belluet, on vous libère, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup à vous.
Merci également à France Bleu Occitanie pour la réalisation de ce duplex. Et lui, ben je lui dis même plus merci, hein, DJ Thierry Lupin, signe comme tous les vendredis la programmation musicale de Passons Genre. Ce que vous entendez là, évidemment, c'est la cultissime Blondie, et c'est grâce à lui.
Mieux.
que la pétroleuse Blondie pouvait avoir sa place au Panthéon musical de Passongeant. Il nous fallait au moins ça, un bon petit croumi pour les accueillir, elles et leur regard toujours acéré, toujours aiguisé sur les questions de genre. Autour de l'avocat Éric Morin, nous avons le plaisir d'accueillir la documentariste Ovidie et l'autrice et journaliste indépendante Nassira El Moadem. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bienvenue dans Passongeant. Deux questions avec vous à la une dans cette deuxième demi-heure. Un, le revenge porn est-il soluble dans la politique? Deux, le coronavirus est-il soluble dans les municipales? Et hop, on y va. Vous êtes sur France Inter.
France Inter, Passongeant.
En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique. Depuis plus d'un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires ainsi que des menaces de mort. Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un nouveau stade a été franchi, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne ne devrait jamais subir une telle violence. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne.
Alors ça, c'était Benjamin Griveaux, vous l'aurez reconnu, un ex-candidat LREM à la mairie de Paris. C'était samedi dernier en conférence de presse. La tempête avait commencé la veille avec la diffusion sur Internet d'une vidéo à connotation sexuelle, comme on dit pudiquement, vidéo qui aurait dû rester privée, bah, pas du tout puisque 4 millions de personnes l'ont vue. Hein. Piotr Pawlenski, celui qui a diffusé la vidéo, en est très très content. Le porno politique est une démarche artistique, affirmait-il aujourd'hui sur CNN, et ça n'est que le début, prévient-il. Message reçu 5 sur 5 par la Macronie, qui, si l'on en croit la tribune, serait au bord de la crise de nerfs. Bref, les jours passent, on continue de monter très très haut dans les tours, hein, perdant complètement de vue, Ovidie, la vraie question que pose toute cette affaire, mais c'est quoi ? Selon vous, l'enjeu véritable de l'affaire Griveaux, c'est quoi ?
L'enjeu véritable, c'est est-ce que il est bien entré dans nos petites caboches que le revenge porn, la pornodivulgation, est interdite en France. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que suite à ces déclarations-là, je regardais un peu, je prenais la température sur les réseaux sociaux, et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu beaucoup de comparaisons entre, par exemple, Griveaux et Baupin, Griveaux et DSK.
Hallucinant.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a épaté. J'ai même lu des choses du genre, on ne comprend pas pourquoi, si c'est lui qui a envoyé la vidéo pornographique, pourquoi est-ce que c'est la jeune fille qui est en garde à vue?
Et même les papiers, faisant cette comparaison d'ailleurs. Plus que les réseaux sociaux, les
papiers. On peut peut-être faire un petit point de droit et profiter de la présence d'un pénaliste à côté de nous. Le droit pour les nuls, Éric Morin, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi l'affaire Griveaux n'a rien à voir avec l'affaire DSK? Ou avec l'affaire Tron
En fait, parce que M. Griveaux est une victime. Il est la victime d'une infraction qui a été intégrée dans notre code pénal récemment, en 2016, où on ne s'intéresse non plus à la captation d'images qui violent la vie privée, comme une paparazzade, mais simplement à la diffusion. C'est-à-dire que l'image a été prise volontairement. Elle a peut-être même été partagée en B2B, comme on dit en mauvais français, volontairement, mais elle n'avait pas vocation à sortir de ce cercle-là. C'était une infraction qui est rentrée dans le code pénal sous l'ancienne mandature et qui était demandée par les associations de violences faites aux femmes parce que selon leurs chiffres, 90% des victimes de revenge porn sont des femmes. Alors, elles s'appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes. Le paradoxe, là, c'est qu'on s'intéresse à un homme. Mais voilà ce que c'est. Et M. Griveaux est clairement victime de revenge porn.
Il y a une notion aussi, on revient à la question du consentement, parce que Benjamin Griveaux n'a pas consenti à la diffusion, mais l'échange de vidéos avec sa partenaire pour le coup était consenti. Là où dans toutes les autres affaires, les victimes n'étaient pas consentantes.
Tout à fait.
C'est toujours cette même ligne rouge qu'on n'arrive pas à se rentrer dans la caboche, comme vous dites.
Donc c'est bien lui la victime, même si effectivement d'habitude les victimes sont majoritairement des femmes ou des jeunes filles ou
des
collégiennes, des lycéennes, des personnes qui ne sont pas dans sa position aussi de pouvoir se défendre de façon aussi efficace, des travailleuses du sexe aussi, beaucoup, des garçons gays, très peu finalement d'hommes hétérosexuels. On se rend compte que c'est pas forcément la cible idéale normalement du revenge porn. Il n'empêche que ça reste quand même une victime dans cette affaire et que beaucoup de gens semblent l'avoir oubliée. Alors c'est vrai que moi j'ai eu un petit pincement quand j'ai vu qu'il se retirait sans mauvais jeu de mots très rapidement. Alors c'est pas lui en tant qu'individu je le connais pas, mais c'est en tant qu'homme politique et en tant qu'homme porteur d'un message politique. Le fait qu'il se retire, j'ai trouvé ça dommage au niveau du message que ça envoyait vis-à-vis des victimes qui habituellement ne sont pas dans cette position-là. Il avait quand même a priori, d'après ce qu'il s'est dit, le président derrière lui, qui lui a dit on fera front, on est derrière toi, etc. etc. Il est dans une position où il peut se payer des avocats, où il peut porter plainte, où il peut faire retirer sa vidéo facilement, ce qui n'est pas le cas quand même de la plupart des femmes ou des jeunes filles qui veulent faire retirer une vidéo sur les réseaux sociaux ou sur les tubes pornographiques. Et là, ce qui est quand même assez... assez dommage finalement dans le message qui est envoyé, c'est que c'est à lui de s'effacer de l'espace public.
Et c'est finalement le message qu'on envoie aussi aux ados que vous croisez dans les collèges et dans les lycées.
C'est à elle de se retirer de l'espace scolaire, de quitter leur établissement, partir vers un autre établissement.
Et comme en matière de violence sexuelle, il y a une inversion de la culpabilité, quoi. C'est-à-dire que c'est à la victime d'avoir honte, comme vous dites. Éric Morin, Nassir El Moadem, vous êtes d'accord avec ça?
Il a quand même déposé plainte.
Ouais.
Et je pense que c'est pas non plus dans l'ADN ou dans la culture des collégiennes et des lycéennes d'aller déposer plainte.
Ouais.
On a vu beaucoup depuis une dizaine de jours, depuis qu'on parle de cette affaire, le fait que la justice était peu intéressée à cette question-là. Mais ce qui va les caractériser, c'est cette honte, mais aussi le fait qu'il ne va pas y avoir de dépôt de plainte. J'ai eu très peur, et là, je vous aurais rejoint complètement, si que Monsieur Griveaux ne dépose pas plainte. Là, on aurait été dans un message absolument catastrophique. Ouais. Après, sur la politique, moi, je suis pas compétent.
Nassir El Moadem.
Oui, mais je suis assez d'accord avec Ovidie. Je pense qu'effectivement, il faut, à mon avis, essayer de sortir vers le haut de cette affaire. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires. Mmh. Alors, évidemment, pas sur ces questions-là, plutôt sur les questions de journalisme, de confiance en soi quand on veut embrasser des carrières, des professions qui ne sont pas socialement celles des jeunes filles et des jeunes garçons que j'ai en face de moi. Mais ça, c'est des histoires qu'on entend tout le temps. Hein. Quand on fait des interventions dans les établissements scolaires, les gamins parlent de ça, hein, sur les questions de chantage à la vidéo.
Ça,
donc, c'est un vrai sujet de société,
mais dont on
parle en fait pas beaucoup.
Et d'ailleurs, Ovidie, vous aviez tenté il y a quelques années, ou il y a quelques temps, d'alerter Benjamin
Griveaux sur le sujet. C'est ça quand même qui est assez ironique, c'est que donc la seule fois où j'ai vraiment eu l'occasion de lui parler, c'était sur un plateau télé, c'était sur le plateau de Clic.
Ouais.
Et je l'avais... On parlait des tubes pornographiques, en fait.
C'est quoi les tubes?
Alors les tubes, c'est les sites, les YouTube du porno, en fait. Les sites de type YouPorn, Pornhub, etc. etc. Et à l'époque, on parlait de protection des mineurs, mais on parlait aussi du fait que sur ces sites-là se trouvaient des vidéos qui circulaient sans le consentement aussi de... Pas toutes, mais certaines vidéos n'étaient pas... les personnes qui apparaissaient à l'écran n'étaient pas consentantes pour circuler, en tout cas, sur ces sites-là. Et ironie du sort, il m'avait fait cette réponse très larem, qui est « on a des groupes de travail ». Bon, ben, faut croire qu'ils n'ont pas assez travaillé.
Ils n'ont pas sorti un numéro vert.
Non, ils n'ont pas sorti de 3969, je ne sais pas. Donc non, ils n'ont pas travaillé là-dessus. Parce que finalement, on estime quand même que les personnes qui se retrouvent sur ces sites-là, habituellement, l'ont un petit peu cherché, et puis que bon, c'est un peu des catins, et puis tant pis pour elles. Là, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à l'époque, je lui parle de ça, il me dit, on a des groupes de travail. 2 ans plus tard, il se retrouve lui-même sur Pornhub, puisqu'en fait, les 4 millions de Français qui ont vu ces vidéos-là, la majorité l'ont pas vu sur Twitter. On a beaucoup pointé du doigt Twitter. Mais en fin de compte, c'est pas sur Twitter que les gens l'ont vu massivement. C'est Twitter qui a relayé.
Ouais.
Twitter, c'est le point de départ de tout ça. Ouais. Mais en fait, quand on regarde les scores de vues sur Pornhub pendant 24 heures, on se rend compte qu'ils ont été qu'ils ont explosé. Ils pouvaient très bien filtrer ça. Ils pouvaient très bien bloquer ça. Sauf qu'ils savaient que ça allait générer un trafic monstrueux. Et ils ont bien tardé à retirer la vidéo.
Alors, vous avez écrit une tribune sur le sujet, une très très bonne tribune dans Libération sur le sujet. Je ne résiste pas à l'envie de vous demander de lire votre chute que j'ai personnellement adorée. Je vais la boire comme du petit lait, comme on dit.
Alors, voilà ce que cela aurait pu donner si c'était moi qui avais écrit le... Donc, après, ça se comprend, hein, ça explique pourquoi c'est pas moi qui ai écrit les discours des politiques, mais bon... Je vous le confirme, il s'agit... voilà ce que j'aurais dit si j'avais été Benjamin Griveaux. Je vous le confirme, il s'agit bien de ma bite. Je n'ai rien fait d'illégal. En revanche, je compte bien poursuivre ceux qui ont fait circuler ces photos parce que la loi m'y encourage et parce que la honte doit changer de camp. Solidarité avec toutes les victimes de revenge porn qui, habituellement, sont dans une situation moins privilégiée que la mienne. Drop the mic.
Voilà.
J'aurais adoré qu'il dise ça. J'aurais presque voté pour lui s'il avait fait ça.
Ça a quand même un peu plus de gueule, hein. Et dans ce magnifique jeu de chaises musicales, la gagnante sera donc Agnès Buzyn, nommée dimanche pour remplacer Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. La ministre de la Santé a dû démissionner en catastrophe. Pour vous, Nassir El Modem, c'est au-delà d'une stratégie politique légèrement calamiteuse ou cafouilleuse ou cafouillante ou je ne sais que dire. Pour vous, c'est surtout du sexisme. Pourquoi ?
Agnès Buzyn, en grande partie, elle a été choisie parce que c'était une femme. Pour remplacer Benjamin Griveaux. Il faut revenir un tout petit peu en arrière. Benjamin Griveaux, sa campagne électorale, tout le monde s'accorde à dire qu'elle était calamiteuse, catastrophique.
C'était pas ouf, 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 quoi.
Comme on dit en jargon politique, il n'imprégnait pas, c'est-à-dire les sondages ne décollaient pas. Le dernier était à 17%, on disait qu'il était très arrogant, pardon. Alors même que l'AREM nous explique que la sociologie électorale de Paris correspond parfaitement à la sociologie d'un parti comme En Marche. Et puis il avait en face de lui deux candidates femmes, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, ancienne ministre de Sarkozy, très connue, et puis évidemment Anne Hidalgo, la maire sortante. Et donc il avait du mal à décoller. Et donc il n'y avait pas non plus 10 000 solutions pour le parti de La République En Marche de sortir par le haut de ça. Et il fallait trouver quelqu'un qui puisse rentrer dans ce dispositif-là, à savoir deux femmes candidates en tête dans les sondages. Et donc Agnès Buzyn était la candidate idéale, ministre, connue nationalement, et donc
c'est ça,
femme.
Pas, elle n'était pas que femme, elle avait aussi une stature nationale et en même temps un ancrage local. Et elle, certes, un déficit de notoriété, mais parfois ça peut aider.
Et puis surtout, elle cache la forêt, c'est-à-dire que vous vous souvenez, 2017, La République En Marche réussit quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est de faire élire quasiment la moitié de ses députés femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 47% des députés En Marche sont des femmes, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, bravo. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde les têtes de liste d'En Marche pour les municipales, c'est catastrophique en termes de parité, puisqu'en fait, il n'y en a pas. J'ai fait le calcul sur les 592 têtes de liste soutenues ou investies par La République En Marche pour les municipales. Tenez-vous bien, seulement 25% sont des femmes. Et donc, en fait, Agnès Buzyn, elle cache cette forêt-là.
Pour vous, c'est un alibi.
C'est un alibi, c'est absolument. Ça.
Quant à savoir si le choix venait réellement d'elle ou pas, Agnès Buzyn le dit, j'y vais, j'en ai envie, j'y vais pour gagner. L'Élysée l'assure, c'est une décision de cœur et d'engagement. Étrange, parce que deux jours plus tôt sur notre antenne, au micro d'Ali Badou, la même Agnès Buzyn.
Vous serez candidate au municipal ?
Je l'ai dit, je ne pourrais pas être candidate au municipal.
Votre décision est prise ?
J'avais déjà un agenda très chargé. Vous l'avez dit vous-même, j'ai beaucoup de réformes aujourd'hui dans le ministère et c'est rajouter un surcroît de travail inattendu, malheureusement, qui est cette crise du coronavirus qui aujourd'hui m'occupe énormément. Et donc, j'avais dit à Benjamin Griveaux, malgré mon soutien, que je ne pourrais pas m'engager auprès de lui.
Nassir El Modem, pour vous, c'est à ce moment-là qu'Agnès Buzyn disait vrai, la suite tiendrait plutôt du sacrifice. À ce point-là ?
Oui, en fait, ce qu'elle dit est frappe dans le coin du bon sens. C'est-à-dire que c'est compliqué, effectivement, de mener une campagne à plein temps, notamment pour la capitale, et en même temps de gérer les dossiers du coronavirus, de la crise hospitalière,
de la réforme des retraites. Elle peut dire, je m'engage dans la campagne, et puis hop là, et puis j'abandonne mon ministère.
Absolument. Sauf que quand on voit les images d'Agnès Buzyn au ministère de la Santé, qui fait sa passation de pouvoir avec Olivier Véran, donc le nouveau ministre de la Santé, elle est en larmes. Mais elle est littéralement en larmes. Elle est là, elle essuie ses yeux tellement elle pleure. Elle s'interrompt plusieurs fois dans son discours tellement elle n'arrive pas à contenir son émotion. Et elle parle même de déchirement en disant « Je pars de ce ministère, c'est un déchirement pour moi ». Et en fait, oui, c'est un sacrifice parce qu'on sent bien, en tout cas, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en la regardant, en l'écoutant, qu'elle n'avait pas envie d'y aller en fait, tout simplement. Ou alors qu'elle n'avait pas envie de délaisser le ministère et faire campagne en même temps. Surtout que quand on regarde les candidats hommes qui sont aussi ministres, donc Franck Riester par exemple, ministre de la Culture, qui est également tête de liste à Coulommiers dans le 77. Quand on regarde Gérald Darmanin, qui est en charge du budget, donc pas n'importe quel ministère non plus, il est aussi tête de liste à Tourcoing, ou même Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est aussi tête de liste au Havre, à eux, à aucun moment on leur a demandé d'abandonner leur ministère pour pouvoir faire campagne.
Oui, sauf que les arguments, alors du côté des REM, les arguments sont légion pour défendre ces choix-là. Ils vous rappellent que le budget de la culture, c'est pas forcément des budgets, des dossiers brûlants en ce moment, ou que Édouard Philippe étant un maire sortant, il a l'expérience, donc il peut faire les deux choses en même temps. Vous êtes d'accord avec Ovidie, avec la lecture que fait Nassir El Modem de ce qui vient de se passer, de cette séquence-là, Agnès Buzyn qui dit « j'y vais pas », puis finalement « j'y vais », mais avec des sanglots dans la voix?
En toute honnêteté, NSP, quoi, ne se prononce pas. J'avoue que ça me dépasse un petit peu. Déjà, j'ai du mal à comprendre ce qui peut motiver déjà à vouloir être ministre ou à mener des campagnes. Enfin, moi, j'avoue que aller au front, se prendre sans arrêt, rencontrer des millions de gens qui nous détestent, enfin, je sais pas si moi ce serait trop mon tripe, comme on dit. Donc je sais pas. Sur l'argument
qui consiste à dire qu'elle n'a jamais fait campagne, ce qui est vrai, elle n'a jamais fait campagne. Enfin, il faut bien commencer quand même.
C'est dans 3 semaines, c'est ça?
Non, c'est dans quasiment un mois, un peu moins d'un mois.
Un peu moins d'un mois, ouais.
Mais ce qui est fou, c'est que les ministres en question, là, il n'y a aucune obligation, par exemple, à ce qu'ils quittent leur ministère si, par exemple, demain, ils échouent.
Oui, mais eux vous disent que de toute façon, ils ont choisi de rester au gouvernement si le gouvernement leur demande, alors que Agnès Buzyn, elle dit je resterai maire, donc il y a une forme de logique et de cohérence chez elle que n'ont peut-être pas les autres.
Ouais, sauf que on aurait aimé aussi avoir, enfin je pense, une ministre femme qui puisse elle aussi avoir le droit de continuer à exercer en tant que ministre et de faire campagne.
Ah oui, mais alors maintenant, si les femmes veulent avoir des droits, Nassira, on s'en sort plus. Hein. Bon, Agnès Buzyn a fait son baptême du feu jeudi avec une balade dans les quartiers nord de la capitale. Visite axée sur l'un de ses thèmes de prédilection, la propreté. En toute logique, donc, un habitant lui a montré la photo d'un préservatif usagé. Arrivé, on ne sait comment, sur son palier. Alors on dit quoi? Eh bien, on dit bon courage.
Oh.
La chanson du bal, c'était PR2B, la petite voix qui monte dans la chanson française et qui ce soir sur France Inter nous emmène joliment danser dans un monde où tout serait à réinventer. Le masculin à redessiner, le féminin à recréer, ça s'appelle le labo du genre. Et c'est tout de suite sur France Inter.
Pas son genre. Julia Foyce.
Éric Morin, vous le savez, ici, chaque semaine dans notre labo virtuel, nos invités déposent un objet qui incarne pour eux le genre auquel ils ont été assignés à la naissance. Comment s'est-on construit comme homme ou comme femme? Singulièrement, individuellement, c'est la question qu'on se pose juste avant d'atterrir, juste avant la fin de l'émission. On a eu un vélo, des clés de vélo. C'est vrai qu'avec, c'est plus pratique. On a eu des paires, hein, de ciseaux, de créoles, de bottes de cheval. Et non, pas celle-là, on les a pas eues. Pour vous, ce serait quoi, Éric Morin? L'objet qui raconte, qui incarne votre masculin?
C'est vraiment parce que vous m'avez forcé, je sais pas si ça incarne, mais je vous ai apporté.
Ici, on fait tout sous la contrainte.
J'ai mon droit à mon consentement, mais il était libre et éclairé. Je vous ai apporté une petite figurine de Goldorak. Voilà. Parce que c'est ma génération.
Oui, je vous ai vu la triturer pendant toute l'émission.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est une petite figurine de Goldorak. C'était finalement une machine qui était pilotée par un être humain. Et c'était un prince un peu exilé de sa planète. Et c'est des jolis souvenirs d'enfance. Et j'ai ce Goldorak dans mon bureau, à mon cabinet d'avocat.
Et qu'est-ce qu'elle raconte de vous en tant qu'homme? Pourquoi est-ce qu'elle est si importante pour vous que vous l'ayez dans votre bureau d'avocat? Qu'est-ce qu'elle vous rappelle quand vous la regardez?
C'est aussi de la nostalgie d'enfance, je crois que. Et puis voilà, il y a à la fois une force et une faiblesse, une machine et puis un être humain. Et finalement, c'est un peu notre quotidien.
Qu'est-ce qu'on vous disait quand vous étiez gamin sur ce que c'était qu'être un homme? Quelle image on vous renvoyait de la virilité?
Je crois que c'était l'idée de paternité. Voilà, j'en ai pas un souvenir plus prégnant que ça. En tout cas, c'était comme ça que j'ai grandi.
Et qu'est-ce que vous diriez à vos gamins si vous posez la question, c'est quoi être un homme, papa? Bah déjà dehors, parce qu'on pose pas ce genre de questions. Et puis après.
Je suis pas certain que mes garçons poseraient cette question-là de cette manière-là.
Ah, méfiez-vous.
Il y a aussi de la pudeur. Je pense que ça passe aussi beaucoup par l'exemple et puis par une certaine liberté qu'il faut à la fois leur laisser, dont il faut qu'ils s'emparent. Mmh. Et c'est pas obligatoirement la chose la plus facile pour qu'ils s'en emparent.
Oh non, liberté, ce sera le mot de la fin. Grâce à vous, Éric Morin, je l'aime bien, ce mot-là. On vous retrouve régulièrement sur notre antenne sur des questions un peu plus digestes que le code pénal. Vous parlez vin et gastronomie chez François-Régis Gaudry dans l'émission On va déguster. La prochaine fois, ce sera
le 15 mars.
Eh ben voilà, rendez-vous.
On parlera du radis.
Du quoi?
Du radis.
Ah, ben très bien.
Du radis libre.
Du radis libre, voilà, exactement.
Natira El-Mouadem, vous avez fait votre baptême du feu ce soir, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les filles de Romorantin, c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Jolie enquête, aussi intime que collective, sur ce que les racines peuvent vouloir dire. Ovidie, votre documentaire sur les violences obstétricales, Tu enfanteras dans la douleur, et qui est vachement bien, est toujours disponible sur arte.tv.
Je viens d'apprendre qu'il est sélectionné au FIGRA. Je l'ai appris aujourd'hui.
Mais bravo,
merci.
Votre série L'éducation sexuelle des enfants d'internet en 4 épisodes est à écouter sur le site de nos camarades de France Culture, franceculture.fr. C'est terminé pour ce soir, on va se dire au revoir. On va vous recommander de rester à l'écoute d'Inter parce que vous avez rendez-vous avec Laurent Goumard côté club juste après le flash. Évidemment, nous on se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir bien entendu. D'ici là, vous pouvez nous podcaster et ce sans aucune modération.